Bonsoir, merci beaucoup d'être venu. Bienvenue à Théodon. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes un cabinet de conseil et de réalisation technologique. Donc notre métier, c'est de coder, de concevoir et coder des produits digitaux pour nos clients. Vous avez trois exemples là. Je pense qu'on a 15 ans, donc ça fait un bout de temps qu'on fait. Quelques exemples. On va faire pour un acteur de l'énergie une application pour aider les calculs de l'empreinte carbone des logements. C'est assez représentatif de ce qu'on fait parce qu'en fait, il y a deux parties. Il y a une partie calcul mathématiques plus ou moins complexes qu'on va faire dans les back-ends de nos applications et une partie restitution sur l'interface. Ça illustre bien les doubles compétences qu'on a. C'est-à-dire on a à la fois des ingénieurs qui sont très très forts en calcul, en modélisation, et on a aussi des ingénieurs qui savent très bien faire du front-end, de la visualisation d'interface, et même toute une équipe de designers qui va faire le Nec plus Ultra. Je passe rapidement, mais juste pour vous dire, on est dans plusieurs secteurs, l'énergie, aussi le secteur public. On a fait le portail. Pour suivre sa demande d'asile quand on est réfugié. Il y a un très très gros problème en France, c'est les délais d'attente pour aller dans les préfectures pour les demandeurs d'asile. Notamment, il faut y aller pour parfois signer un papier ou juste prouver qu'on a fait telle démarche. Sur des choses où, en fait, avec une application bien faite, c'est résolu. Donc, on a divisé par quatre le temps d'attente pour les personnes en demande. Un autre exemple dans la santé, une application pour faciliter le suivi médical des plaies chroniques des patients. Pour un acteur de la santé qui vend des pansements très techniques, savoir en fonction de la plaie quel pansement on va mettre sur le patient. C'est donc dans cette application, il y a plusieurs choses, notamment de la computer vision, puisqu'on va prendre en photo une plaie et il y a tout un algorithme qui va analyser la photo pour poser un diagnostic médical. J'en parlerai de ces trois exemples plus tard dans mes challenges de CEO, mais voilà. Donc c'est notre cœur de métier. Quelques chiffres. Donc, je vous disais, on a 15 ans. Aujourd'hui, on fait 90 millions de chiffres d'affaires. La stratégie Lean, on a commencé en 2012. Ça nous a plutôt réussi. On a plusieurs entités spécialisées dans des industries, le public, la santé. Les exemples que j'ai montrés tout à l'heure illustrent ça. On a aussi des entités spécialisées par technologie, puisque notre proposition de valeur pour nos clients, ça reste l'expertise technologique. Donc, ça faisait sens de structurer le groupe comme ça. On est dans quatre pays, les États-Unis, le Maroc, le Royaume-Uni et la France. Et on a un mix de clients, avec, puisque je commence à parler un petit peu de la suite, mais on a un mix de clients assez divers qui a fait très très longtemps notre différenciation. On sait servir de la start-up qui vient de se lancer, early stage, jusqu'au gros corporate. Et les start-up early stage vont voir chez nous la valeur d'expertise technologique. La valeur aussi de l'ADN culturel qui est le même. Et les corporates viennent chercher la capacité à innover et à développer très très vite des logiciels par rapport à ce qui peut se faire sur le marché. Donc, pas exactement les mêmes raisons d'achat. Je vous ai montré une courbe exponentielle de chiffre d'affaires. C'était vraiment les 15 dernières années, on va dire, la croissance folle du marché de la tech. Et comme vous le savez tous, l'année 2023, avec la hausse des taux, a marqué un vrai tournant sur le marché, puisque ça a augmenté le coût d'opportunité d'investissement, donc a vraiment freiné les levées de fonds pour notamment toute une partie de nos clients qui étaient les startups scale-up dont je vous parlais. Approximativement, pour vous donner un ordre de grandeur, on avait l'année dernière, en 2022-2023, entre 30 et 40% de notre chiffre d'affaires qui était fait avec ce type d'acteurs. On est actuellement entre 0 et 5%. Ça s'est vraiment arrêté très fort. Par ailleurs, côté grand groupe, on est une boîte d'innovation. Donc, ce qu'on fait, c'est que nos clients, ceux qui viennent nous chercher, sont des Chief Innovation Officers, des Chief Digital Officers, des personas comme ça. Les grands corporates, avec la hausse des taux, ont aussi été impactés. Et de manière très générale, quand les boîtes vont un peu moins bien, les premiers budgets qui sont réduits, c'est les budgets d'innovation. Donc directement, les budgets de nos acheteurs. Donc, comme tout le marché du conseil en technologie, hein, ce n'est pas du tout spécifique à Théodo, mais on est sur des années qui sont beaucoup moins fast, beaucoup moins faciles pour faire de la croissance. Et donc, c'est sur ce thème-là que je vous propose de vous parler de comment est-ce que, dans un temps moins fast, le lead m'aide à m'orienter. Parce que ce qui est sûr et certain, c'est que dans les périodes de croissance forte, on avait des vrais enjeux de maintenir la qualité, maintenir le rythme, et le lead m'a beaucoup aidé aussi à ce moment-là. Mais là, je suis dans une autre situation, donc la question, c'est comment le lead m'aide toujours à m'orienter. Alors du coup, je vous propose de faire un petit trois anecdotes, trois histoires sur trois réflexions que j'ai en tant que CEO. Premièrement, dans un contexte où mes clients sont beaucoup plus challengés sur le ROI de leur projet, il faut que moi, je comprenne beaucoup plus la valeur pour eux, pour leur entreprise. Donc, comment est-ce que je comprends beaucoup mieux ce que veulent mes clients, qu'est-ce qu'ils cherchent pour ensuite adapter mes offres. Deuxième point, ça c'est très très lean, mais je commence par ma client base actuelle, comment je les chouchoute le plus possible. Ça, c'est le point numéro 2. Et le point numéro 3, on est une boîte tech. Comment je maintiens un très très haut niveau de qualité technique pour renforcer notre réputation? Voilà. Donc, je commence par le premier. Alors, quand on est challengé sur ses ventes, je pense qu'on a tous le réflexe, c'est assez humain. On va se focaliser d'abord sur le pipe qu'on a et on va essayer de prendre deal par deal et de faire le maximum pour signer le plus vite possible tous les deals qu'on a. Ça, c'est évidemment, il faut le faire. Le truc que je voudrais vous partager, c'est une approche lean complémentaire que j'ai. C'est-à-dire, chaque lead que j'ai, c'est pour moi une opportunité, et pour mes équipes, de regarder, de donner un input pour la stratégie globale de l'entreprise. Donc, je lève un peu le nez, je prends un lead, et je me pose trois questions. D'où vient ce lead? Pourquoi on se pose la question? Dans le B2B, notamment dans le conseil, on ne fait pas d'acquisition via du SEO. Le business vient de recommandations de patron à patron. Et donc, comprendre qui a parlé à qui, quand, où, moi, ça me permet de comprendre exactement l'histoire du business et surtout, du coup, qui sont mes promoteurs. Est-ce que je m'en occupe? Est-ce que je suis aux endroits où on parle de moi, etc. Je dis moi, c'était Oudo. D'où vient le lead? Via le proxy de ce lead, qu'est-ce que ça me dit sur la demande du marché? Et d'être très attentive. On pourrait passer très vite sur cette question et se dire oui, comme les autres clients, ils voudraient du renfort technologique sur telle technologie. Mais en fait, il faut faire attention aux détails parce que la stratégie se fait sur des détails. Par exemple, je vous donne un exemple. On va avoir pendant des années, on a eu des demandes sur une technologie X. En l'occurrence, c'était React Native, c'est une technologie très 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 puissante en mobile. Les clients commençaient à nous dire. Alors, React Native, ce serait vraiment chouette, mais on se pose des questions. D'ailleurs, en fait, on a entendu cette petite technologie émergente qui s'appelle Flutter. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, ça nous permet de se dire, dans les questions que se posent nos clients, ça nous donne des premiers signaux sur la demande du marché, où est-ce qu'elle va aller. Et du coup, évidemment, troisième question naturelle, qu'est-ce qu'on change dans l'entreprise? Alors, je vous donne un exemple très concret. Ces trois questions-là, je me les pose avec l'ensemble de mon COMEX, et pas que. J'invite aussi certains leaders de l'entreprise qui ont évidemment des rôles sur la stratégie commerciale et marketing, mais j'invite aussi des patrons de fonctions internes, la finance, le staffing, les ops, etc. Pourquoi? Parce que je sais que là, je suis face à une situation d'incertitude et que si je dois faire tourner le bateau, il faut que tout le monde soit impliqué dans la réflexion. Sinon, ça va prendre beaucoup trop de temps. Donc, ils sont tous autour de la table et j'ai anonymisé parce que c'est confidentiel, mais voilà l'idée. Sur ces trois questions, origine du lead, insight marché, ce qu'on change, on a une réunion, on en parle et on en sort une idée pour chacune de ces trois questions. Ça me facilite beaucoup le changement. Là, en l'occurrence, ce qu'on peut voir, c'est que l'origine du lead vient du terrain, vient un projet, où on était beaucoup chez le client, deux jours par semaine. Comme on était chez le client, on a réussi à entendre que le client avait un problème, on a réussi à avoir des conversations avec lui, et donc à être mis dans la boucle pour construire la solution avec lui. Ce n'est pas du tout anecdotique comme information. En tout cas, c'est l'approche lean, un petit peu contre-intuitive, sur laquelle là, je m'appuie. Quand j'ai tout mon COMEX, plus beaucoup de leaders, dans la pièce où imaginez, il y a 20 personnes, c'est 10% de la boîte, qui voient ça. Quand demain, je vais challenger les guidelines de remote qui font que depuis le Covid, on a beaucoup moins de personnes qui vont chez les clients, et que je raconte ces histoires-là, et que je commence à proposer un changement, ou au moins de commencer la réflexion, j'ai beaucoup plus de buy-in. Parce qu'on a des références communes entre nous, sur des histoires vraies, où on a vu que là, vraiment, pour de vrai, l'origine du lead, c'était parce qu'on était chez le client. Donc, la conversation sur les guidelines de remote, je pense que peut-être vous l'avez tous dans vos boîtes, elle est très sensible, elle est touchy, Mais ça me permet d'avoir au moins des bases très, très réelles pour discuter. Autre chose, Insight Marché. Le client avait besoin d'un one-stop shop, d'un partenaire qui est capable de gérer une transformation à très grande échelle. Vraiment du COMEX, c'est une grande boîte, du COMEX jusqu'aux opérations. On voit que on y a répondu avec un cabinet de conseil. On voit que sans ce cabinet de conseil, on n'aurait pas gagné. Du coup, question stratégique, qu'est-ce que je change? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai un système qui gère mes partenaires? Lesquels? Etc. Toutes ces réflexions-là, elles viennent de cette pièce. Ce qu'on change en interne, là, on a comment, grâce à cette pièce, on a trigger un recrutement pour un expert dans l'industrie du client, qui était les médias. Donc, on fait ça toutes les 2 semaines. Donc, au fur et à mesure du temps, on construit des références communes dans toute l'entreprise. Ça a deux vertus. La première, c'est que moi, j'ai un paquet d'inputs pour faire ma stratégie, qui viennent du terrain, très très bas niveau. Et surtout, j'ai un buy-in de l'entreprise énorme sur le changement derrière, parce que tout a été vu avant, discuté, partagé, au niveau de vraiment de quasi tous les responsables de l'entreprise. Deuxième petite histoire. En 2023, j'ai dû gérer 3 projets très difficiles, avec des clients insatisfaits. Un premier projet où environ à mi-projet, on s'est rendu compte qu'on allait livrer 3 mois en retard par rapport au budget du client. Le client a décidé du coup d'arrêter en plein milieu. Ça a été pour nous évidemment une perte de chiffre d'affaires, surtout un impact dans la relation client et dans notre réputation. Et lui, il a demandé à payer pas tout ce qu'il nous devait. Un autre projet, pareil, dépassement de 4 mois par rapport au jalon initial de livraison. Vous voyez tous, hein, en fait, on est en mode projet. Donc, on vend une certaine prestation entre une date A et une date B à un certain prix. Et donc, notre performance dépend de ça. Est-ce qu'on arrive à tenir ça? Pareil, là, on dépasse de 4 mois. Client très insatisfait qui a demandé d'arrêter dans une semaine. Donc, pour nous, c'est extrêmement coûteux comme changement parce qu'on doit retrouver du boulot immédiatement à toute une équipe. Troisième projet, pareil, encore un retard, dépassement, demande de remise commerciale. Une posture lean contre-intuitive, pareil, qui m'aide à réfléchir dans ces cas-là, c'est le concept de front loading problem solving. C'est un concept qui dit, en fait, il faut investir du temps et des ressources alors qu'il n'y a pas encore de problème. C'est assez contre-intuitif parce que, comme je vous disais, moi, souvent en tant que CEO, on m'envoie sur les dossiers les plus complexes. Ça a certaines vertus, puisque comme je suis compétente, j'arrive à gérer ces situations et à trouver des solutions. Mais si on pense un petit peu différemment, ça a aussi beaucoup de défauts. Premièrement, quand j'éteins des feux, je ne fais pas autre chose, par exemple développer la stratégie. Et surtout d'un point de vue encore lean, d'un point de vue formation de mes équipes, quand les équipes sont dans une situation très difficile, cérébralement, l'apprentissage est très difficile, puisqu'on cherche juste une solution au problème. Donc j'ai beau faire des trucs de dingue devant eux et leur montrer des choses, les former. En fait, je me rends compte quand je leur parle 2 mois après, je leur demande ce qu'ils ont retenu du sauvetage du projet X, ça ne répond pas. Parce qu'en fait, cognitivement, le stress était déjà trop haut. Donc en fait, la posture d'apprentissage, elle est très très difficile. Du coup, j'ai fait le saut de la foi. Je me suis dit, OK, je me déplace dans la chaîne de valeur, je suis ce truc, et je m'investis, et non seulement moi, mais plein de ressources super clés de l'entreprise, les plus sachantes, les plus compétentes, en début de projet. Alors, ça ne veut pas dire, c'est pour ça que je l'ai grisé, je ne l'ai pas fait disparaître, que de temps en temps, je ne m'occupe pas des dossiers difficiles, bien sûr, mais la majorité de mon temps, elle est là. Maintenant, je vais vous raconter. Qu'est-ce que je fais quand je m'investis sur les avances de phase? Deuxième posture, lean, je pense, qui est pas répandue, on va dire, c'est manager par les questions plutôt que par les instructions en tant que manager. À chaque fois que je vois un projet, en fait, je reçois un trinôme. Un trinôme chez nous qui représente les 3 compétences clés dans un projet, la compétence de gestion de projet, delivery, la compétence technique, évidemment, et la compétence commerciale, relation client. Et j'ai découvert cette question qui est absolument fantastique, qui est: quelle est la promesse faite au client? Alors pourquoi je pose cette question? Chaque mot est important. J'essaie déjà, encore une fois, dans un univers où les budgets sont plus contraints, de créer la notion de renforcer le commitment au résultat. Donc le mot promesse est un mot fort, mais il n'est pas choisi au hasard. Et alors là, c'est exceptionnel ce qui se passe. C'est que, en fait, c'est loin d'être clair. Et ça a été une de mes grandes surprises quand j'ai commencé à faire ça. On pourrait croire quand même que c'est la base. On va dire, on fait un projet. Et en fait, pas du tout. En fonction du point de vue, en fonction du niveau d'information, etc., il se passe des choses. Donc déjà, mon premier rôle, c'est simplement de poser cette question et après de les laisser se parler. C'est génial, je me tais. Et là, ils commencent à se dire, mais non, pas du tout. Et là, ils se mettent d'accord. At some point, ils se sont mis d'accord. Deuxième question. Si le projet devait échouer, comment échouerait-il? Alors ça, c'est aussi très intéressant. C'est un exercice de pré-mortem, si on peut dire ça comme ça. D'un point de vue posture et d'un point de vue pédagogique, en posant cette question, je fais faire l'exercice à l'équipe de se projeter dans l'ensemble du projet et d'anticiper tous les risques qui vont se passer. Et là encore, c'est passionnant. Ils ont plein d'idées, et pas forcément les mêmes. Et d'ailleurs, elles sont toutes vraies. Juste pour revenir à ce que je vous ai dit par rapport à la situation où le projet est déjà en difficulté. Là, ils sont encore, tout va bien à ce moment-là du projet, puisque le projet n'a pas commencé. Donc, ils sont très créatifs. Et donc, ils sont capables, une fois qu'ils acceptent de faire l'effort de se projeter, de penser à des trucs vraiment, vraiment smart. Moi, je dis oui, c'est vrai. Et comme j'ai un peu plus d'expérience qu'eux, et qu'avec moi, j'ai un CTO très expérimenté, je pense qu'à nous deux, on a 30 ans d'expérience de projet, on dit exactement. Et j'ajouterai les raisons supplémentaires. Et là, la magie du Lean, enfin, la magie en tout cas de cette conversation qui nous vient du Lean, c'est qu'ensuite, je n'ai plus rien à faire. C'est-à-dire, là, on pourrait croire que là, j'ai besoin de leur dire, alors pour le risque A, vous allez faire quoi? Pour le risque B, vous allez faire quoi, etc. En fait, non. Le job est fait, quasi à ce stade. Puisqu'ils ont eu une démarche proactive de clarifier la promesse, puis d'identifier les risques pour livrer cette promesse. A priori, ils sont tous autonomes. S'ils ne le savent pas, ils me le diront. Depuis que j'ai fait ça, j'ai beaucoup moins de problèmes. Alors, je ne dis pas que j'en ai plus du tout, mais ce que je vois, c'est que les équipes sont beaucoup plus proactives. Et donc, c'est un autre énorme apprentissage pour moi d'un point de vue CEO, CEO qui essaye de faire du lean, c'est comment je déclenche l'apprentissage de mes équipes au bon moment et avec les bonnes questions. Voilà, les deux questions magiques. Franchement, je vous assure, ça change tout. Je vous donne un exemple. Alors, j'ai dû vachement anonymiser, je suis désolée parce que les projets sont confidentiels. Mais ce que vous pouvez voir, c'est que on a vu l'équipe. Ils sont en début de projet, le sprint 1. On a un budget. On a une date de livraison. À la fin de la conversation, on se dit, oups, lumière orange. Voilà les risques qu'on a identifiés. Et les risques, je les mets là. Je dis, en fait, en discutant avec eux, c'est venu d'eux. On doit obtenir une certaine performance à l'issue du projet. On n'a pas de manière de la visualiser ni de la mesurer. C'est quand même un peu bête, puisque le client nous attend là-dessus. C'est la priorité absolue, nanana. Et ensuite, deuxième chose, l'équipe se rend compte que la méthode qu'on a, qui marche pour 95% des projets, dans ce cas précis, ne marche pas. Et là, il s'est passé un truc assez intéressant, c'est que je leur ai dit, vous avez raison, ça ne marche pas. Et là, il s'est passé un truc, c'est qu'ils ont été extrêmement soulagés. Comme si le fait que je leur dise, moi, en tant que CEO, là, vous n'allez pas suivre les standards habituels et c'est OK. Ça les a soulagés et ça a libéré leur créativité pour faire la bonne méthode. Troisième anecdote. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous faisons des applications. Donc, l'absence de bugs, pour nous, est critique. C'est la base de la confiance avec nos clients. Pour les trois exemples que j'ai cités, à chaque fois, on pourrait imaginer des bugs qui peuvent arriver. Erreur de calcul sur l'empreinte carbone du logement. Encore plus grave, des informations fausses transmises à des demandeurs d'asile. Encore plus grave, mauvais diagnostic de l'algorithme de machine learning sur la plaie, et du coup, recommandations erronées sur le bon pansement. Donc, c'est juste absolument critique que nos logiciels soient sans bug. C'est la base. Dans la tech actuellement, par rapport à l'industrie, la gestion des défauts, la gestion des bugs est encore très approximative. Pour vous donner un ordre de grandeur, dans les usines de production, quand je visite, on parle de défauts par million. Donc l'échelle, quand on dit bon bah il y a un boulon, quelque chose de physique qui est sorti de l'usine, on compte en ppm, ou par millier. Je sais pas si vous avez des équipes techniques, mais moi ils comptent pas en millions, ni en milliers. Donc on est une industrie encore bien plus jeune, c'est normal, beaucoup moins mature sur la qualité, mais donc on a pas encore le niveau de qualité qu'on a dans d'autres industries. Donc, comment ça se voit, déjà à l'échelle dont je vous ai parlé, mais surtout aussi même de la manière dont les défauts sont traités. Généralement, on voit un bug. C'est vécu comme c'est une interruption, il faut passer à autre chose. Donc on fait un quick fix. On fait rarement une analyse de cause profonde de l'origine du défaut. Et on fait encore moins rarement l'exercice de renforcer la qualité. Et quand on fait, généralement, on le fait très mal, c'est-à-dire qu'on rajoute des process dans des checklists. C'est pas exactement ça qu'on veut faire. À Théodo, on prend le sujet complètement différemment. Et le parti pris très fort, c'est le plus petit problème est intéressant. Et sur le plus petit problème, je vais en parler tout à l'heure, c'est intéressant de faire une résolution de problème. Ici, vous avez une base de données, c'est un screenshot que j'ai pris hier, de l'ensemble des bugs que les équipes ont remontés. Et il y a un truc qui est très intéressant, c'est le detection stage. Ça va de A à E. A étant, on a détecté que ça ne marchait pas comme prévu en environnement local. C'est très très loin du client final. Le stade E étant customer complaint. Le client l'a vu et il s'est plaint. Et la culture qu'on essaie de créer, c'est une culture où dès l'étape A, ou le plus tôt possible, c'est un vrai sujet d'apprentissage. Et on considère ça comme un défaut. Ce qui est une sorte de. C'est un vrai changement de paradigme. Parce qu'aujourd'hui, un bug, dans le langage commun, c'est arriver jusqu'au client. Donc on fait ce travail de remonter le flux. Et surtout, même quand c'est petit, on pourrait dire, c'est pas grave, c'était en local, c'est fait pour ça. Ben non, on va quand même dire, on va regarder. Donc j'essaie de créer ça. Évidemment, c'est un effort. C'est un effort qu'on demande à nos équipes techniques. Et donc moi, mon enjeu en tant que CEO, c'est, OK, je veux créer cette culture de qualité, comment je crée l'envie dans mon équipe technique? Il y avait un endroit dans Théodo, avec une équipe, qui le faisait très très bien, très naturellement. Il s'appelle Théo. C'était un endroit, c'était un projet, un groupe de personnes qui montraient des comportements très différents et hyper intéressés sur la question de la qualité. Donc je suis allée le voir en lui disant, mais pourquoi est-ce que toi tu fais ça? Qu'est-ce qui t'intéresse? Et il me dit, je fais l'effort de faire ça parce que Thibaut, mon manager, quand je lui montre une analyse de bug, m'apprend des choses à chaque fois. Et pour moi, ça a été un aha moment parce que j'ai compris que la résolution de problèmes, qui est un exercice du Lean, je pense que vous en avez vachement entendu parler, ça va avec les standards, etc. C'est seulement le début d'une conversation avec un sachant. Comment créer l'envie à une personne de faire une résolution de problème? C'est que si elle l'a fait, c'est un bon pour une conversation super intéressante avec quelqu'un qui en sait plus et qui va raconter des choses complémentaires, plus profondes, etc. Donc je me suis dit, OK, là, moi je suis CEO, je ne sais pas coder, comment je peux faire quand même pour contribuer à cette culture? Et donc je me suis dit, il faut que je crée plus de Thibaut. Il faut que je crée plus de binômes, en tout cas, qui font comme ça. Donc, je vais chercher des leaders. Je vais chercher des leaders. Et c'est quoi les symptômes, les signes d'un bon leader? C'est quelqu'un qui est évidemment qui a de l'expérience, du coup il a des choses à raconter, surtout il est passionné par ce qu'il fait et il adore transmettre. Une fois que j'ai identifié des leaders, je leur donne de l'espace. Et ça, c'est vraiment le rôle du CEO, parce que le reste de l'entreprise va essayer de continuer ses opérations comme d'habitude, et donc créer de l'espace, créer notamment de l'investissement sur des conversations, sur des petits bugs, je peux vous dire que c'est loin d'être évident pour le reste de l'entreprise. Parce que il y a d'autres considérations. Là, vous pouvez voir une photo de cet espace même, où en fait, du coup, je lui ai donné l'espace. Je lui ai dit, toutes les semaines, tu as le stage pour toi, tu peux inviter toute l'entreprise, et donc c'est ce qu'il fait. Comment ça se passe? Les participants viennent avec une résolution de problème sur des tout petits problèmes. Là, vous avez un exemple. C'est un défaut, avec la description du défaut, l'analyse des causes et les contre-mesures pour que le défaut ne se reproduise plus. Mais pourquoi est-ce qu'ils font l'effort? Pourquoi est-ce que ça a été écrit par quelqu'un qui a pris le temps, alors qu'il aurait pu juste corriger le bug et passer à autre chose? Il a fait cet effort parce que sur la pièce, Albéric, donc la personne qui a fait l'effort s'appelle Abdel Moujib. Albéric, qui a 6 ans d'expérience et qui est passionné de tech, il code depuis qu'il a 12 ans, il va lui dire, ah, en fait, ici, dans ce petit défaut, ce qu'on découvre, c'est que le modèle mental que tu as sur la pagination en PostgreSQL, le modèle mental que tu as sur la gestion de tes erreurs potentielles, etc. Tu peux l'approfondir, tu peux regarder, voilà un article, etc. Encore une fois, je reviens à moi, mon rôle de CEO. Moi, je ne connais pas tous ces modèles, je ne connais pas tous ces apprentissages. Par contre, je sais détecter que Albéric, il est extrêmement passionné et je sais lui créer l'espace. Corrélation n'est pas causalité, mais ça, c'est la proportion que je traque de mes équipes qui suivent les bugs de manière très fine. C'est-à-dire pas juste on compte les bugs, mais on met les stages de A à E, on les résout, etc. Je pense qu'on a fait d'autres choses dans la boîte, donc je ne veux pas vous raconter que c'est vraiment corrélé, mais on voit quand même que ça participe, à mon avis, à cette culture. Et donc, créer des conversations, ça, c'est mon rôle. Petite conclusion. Je vous ai dit en introduction, en tant que CEO, comment le lead m'aide à m'orienter? Je pourrais reformuler la question qui est, en tant que CEO, comment le lead m'aide à penser différemment, peut-être en dehors de la manière classique, et me fait agir? Vous avez vu trois anecdotes. J'ai juste repris les idées et je vous ai mis à chaque fois le truc lean un peu qui me fait penser différemment. Sur la compréhension de la valeur pour les clients, c'était la business review que je vous ai montrée. Le truc à retenir, c'est moi, j'utilise les pièces du quotidien, les opportunités commerciales que j'ai dans mon pipeline, en input de la stratégie. C'est la partie haute du TPS, en haut, qui est value analysis. Value engineering, là on est sur la partie value analysis, qu'est-ce qui a de la valeur pour mes clients. Et donc je n'utilise pas que les analyses du marché. Évidemment, je fais tout ça, hein, la manière classique, l'analyse du marché, les trends, là je regarde les concurrents, je fais tout ça. Mais peut-être en plus, d'un point de vue posture lean, je regarde des pièces. Sur le niveau sur les projets, la notion clé c'est le front, donc c'est le côté dans le pilier de gauche qui est le just in time, c'est comment je délivre à temps dans le budget. La partie intéressante, c'est la partie front-loading, problem-solving. C'est-à-dire, je m'investis alors qu'il n'y a pas encore de problème. Je trouve ça contre-intuitif. En tout cas, c'était pas si facile pour moi de penser comme ça. Sur la partie qualité technique, la partie droite du TPS, qui est la partie JIDOCA, arrêt au défaut, qui parle plus de la qualité. Mon rôle en tant que CEO, je pourrais dire plein de choses sur cette partie, mais comme là, on est entre CEO, mon rôle en tant que CEO, c'est d'identifier les leaders et de créer les espaces, créer les bonnes conversations. Voilà. J'espère que ça vous a intéressé.